Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'audio consacré à la première thématique du mois, c'est-à-dire la voix du milieu. Ici Fanny Wild et je suis ravie que vous vous trouviez ici avec moi. Alors, la voix du milieu, je la mets en relation avec l'équilibre et l'harmonie. Mais pas comme on l'entend d'habitude. C'est-à-dire que, pour moi, la notion même d'équilibre a quelque chose de très déstabilisant et de trompeur. Parce que quand on pense à un peu une balance, hein, qu'on représente énormément pour symboliser l'équilibre, eh bien, on a en tête une balance de type romaine avec deux plateaux. Et on arrive à équilibrer parfaitement les deux côtés au même niveau. Et dans ce cas-là, tout s'arrête. C'est-à-dire qu'on a trouvé l'équilibre, les plateaux sont arrivés au même niveau, et ils ne bougent plus. Dans la vie, l'équilibre, ce n'est pas ça du tout. Il n'y a jamais, jamais, jamais d'arrêt. Tout change tout le temps. Nos relations, nos amis, notre famille, nos enfants, tout, tout, tout. Et même dans une seule et même journée parfois. Tout change d'une seconde à l'autre, comme par exemple le temps qu'il peut faire en montagne, qui est toujours très instable, où on ne peut jamais en fait tout à fait prévoir ce qu'on va pouvoir faire l'après-midi même ou dans l'heure qui suit. C'est très rigolo parce que parfois on met le linge à sécher dehors, tout est beau et calme, et soudain c'est la tempête ou c'est la pluie et on ne l'a pas vu venir. Alors, quand je pense à l'équilibre, je pense justement à ce temps de montagne, mais je pense aussi à ce jouet que j'avais quand j'étais gamine. C'était une balle de taille moyenne, une balle rose, entourée d'un plastique autour, donc un plastique noir circulaire. Et on devait monter dessus avec nos pieds et tenir le plus longtemps possible en équilibre. Je pense aussi à ces grandes balles de gym, celles que l'on peut utiliser pour les accouchements par exemple. Et lorsqu'on se met dessus, qu'on lève les pieds, il faut tout le temps corriger sa position par des micro-mouvements pour réussir à garder l'équilibre. En fait, toutes ces images-là sont plus proches de la vérité de ce qu'est véritablement la notion d'équilibre. C'est un mouvement constant, perpétuel, ou plutôt une recherche constante par le mouvement. Mais attention, il ne faut surtout pas faire de grands mouvements ou des mouvements trop brusques, parce que sinon, si c'est direct, on tombe d'un côté totalement. C'est-à-dire que on ne doit jamais être dans l'excès. Et ça, vous verrez, c'est très important. Donc l'équilibre n'est pas un état auquel on accède une fois pour toutes, et puis hop, on est tranquille pour la vie, c'est bon. Non, non, c'est l'incarnation dans la matière. Ce qui veut dire que c'est aussi une incarnation dans le mouvement continue. L'inverse, l'arrêt, comme on s'imagine généralement avec la notion d'équilibre, eh bien, c'est la mort, tout simplement. C'est se figer et c'est mourir. Donc, l'équilibre est un mouvement vivant, une recherche vivante constante à chaque seconde, à chaque décision et à chaque mot. Et c'est pour cela que l'on appelle aussi cette façon de vivre la voie du milieu, parce que avec cette formulation, on comprend bien qu'on est sur un chemin et qu'on avance. Ce n'est pas un parking, le parking du milieu. Non, non, c'est une voie, donc c'est un mouvement. Alors, à chaque fois que l'on parlera ce mois-ci d'équilibre, d'harmonie, ou même de tantra, de voie du milieu, etc., eh bien, on veillera à bien garder cela à l'esprit, que ce n'est pas un état définitif, mais une recherche, une voie, un mouvement. Et ces mouvements peuvent être de plus en plus subtils, et calmes, mais ils seront toujours là à rectifier notre position. Alors, ok, mais pourquoi? Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi y a-t-il toujours besoin de rectifier? Alors, en tant qu'être humain, nous sommes effectivement constitués de deux polarités, on en parle énormément, mais la plupart du temps, eh bien, nous ne manifestons qu'une polarité à la fois. Tantôt on est en mode réceptif ou tantôt on est dans l'action. Donc on pourrait dire que la voie du milieu nous demande de passer autant de temps dans un mode que dans l'autre. Par exemple, exemple, autant en mode réceptif qu'en mode action sur toute la semaine ou dans toute la journée ou dans l'heure. Il n'y a pas que méditer, hein, contre agir dans ces activités-là, mais c'est vraiment une pléthore de possibilités dans les deux pôles. Alors, est-ce qu'on donne autant que l'on reçoit dans une semaine? Est-ce qu'on joue autant que l'on médite dans une journée? Est-ce qu'on contrôle autant qu'on laisse faire dans une heure? Ce sont quelques exemples. La recherche d'harmonie, on le voit, est de plus en plus compliquée lorsque la notion de temps se raccourcit aussi. Et il est plus facile de donner autant que de recevoir sur une semaine plutôt que sur une seconde. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, sachant cela, comment vivre en état permanent d'équilibre, d'être tout le temps justement sur cette voie du milieu, sachant que, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué d'y rester tout le temps dans la seconde. Eh bien, justement, on peut se rappeler de cette image de la grosse balle de gym et des micro-mouvements à faire pour trouver l'équilibre. Au début, on n'y arrive pas du tout. On fait des grands gestes et puis on tombe. Puis ensuite, petit à petit, on s'affine, on peut y rester plus longtemps en faisant des mouvements de plus en plus subtils. C'est la clé, la subtilité. L'harmonie, en fait, c'est en finir avec nos comportements les plus excessifs, les plus brusques, les plus grandioses dans le sens gesticulant. Par exemple, pour équilibrer donner et recevoir, eh bien, il peut s'agir de petits dons, comme un sourire par exemple, et pas forcément un tonneau de courgettes. Je suis désolée, c'est tout ce qui me vient. On peut offrir des choses subtiles comme une pensée et réceptionner aussi des petites choses toutes simples qui nous feront plaisir, comme un court moment de silence dans une discussion où tout d'un coup on se relie plus en profondeur. Et ces subtilités ne peuvent se voir et s'apprécier qu'avec un degré de conscience plus élevé ou des perceptions plus affinées. Ce qu'on nous a appris à faire, hein, dans les mois précédents de l'atelier général des mères de clan, lorsqu'on mettait notamment notre conscience dans notre corps. Donc en affinant nos perceptions, ce qui nous semblait n'être qu'un espèce de chaos en mouvement, qui est la vie, eh bien on peut voir tout doucement que ce chaos s'aligne, que cet univers se synchronise. Donc oui, par l'activation de nos perceptions fines, par la finesse, par la subtilité, eh bien, on a une part indispensable, pardon, à la notion de la voie du milieu. Alors, ce qui me fait dire en fait que la voie du milieu, c'est une voie de subtilité. C'est être tantôt dans un mouvement de polarité féminine et tantôt dans une polarité masculine. Alors, il nous arrive bien entendu de faire les deux en même temps, surtout si on a eh bien, un certain don ou talent de voyager entre les mondes, hein, comme les chamans, les femmes médecines ou les prêtresses par exemple. Mais même dans ce cas, il y en a toujours un qui domine un petit peu sur l'autre. Il n'y a pas totalement d'équilibrage parfait, ou alors ça peut nous demander véritablement un réel apprentissage à part. C'est possible. Mais en tout cas, c'est beaucoup compliqué de le faire sur la durée. Donc on peut être en équilibre parfait sur une seconde, de faire quelque chose sur une seconde, mais sur la durée, ça devient un petit peu compliqué. Et en fait, c'est ce que nous dit justement la figure emblématique du cercle yin-yang que vous avez tous en tête, mais que je vais mettre quand même dans cette page. Parce que même en état de réceptivité totale, en méditation par exemple, eh bien, nous avons les micro-mouvements du corps, la respiration, la circulation, la digestion. Donc, on a toujours un petit peu de yang. Et même en étant dans un état d'action totale, eh bien, notre esprit peut s'évader, recevoir des informations. Donc, toujours un petit peu de yin dans cette grande zone de polarité yang. Ainsi, les pôles ne doivent surtout pas se rejeter, mais plutôt se respecter. Il ne s'agit plus alors de guérir notre masculin sacré ou notre féminin, mais bien de guérir la relation entre eux. Et ça, c'est une nouveauté qu'on ne nous explique pas forcément, mais de guérir la relation qu'il y a entre ces deux polarités. Les deux énergies qui paraissent alors si opposées doivent apprendre à se respecter avant toute chose, avant de chercher cet équilibre. Ensuite, une fois qu'elles auront appris à se respecter, tout simplement en comprenant que chacune est nécessaire, par exemple, eh bien, elles vont passer de façon très très naturelle de polarité opposée à polarité complémentaire. Les pôles ne doivent pas vouloir se changer l'un l'autre et modifier l'autre à sa ressemblance ou condamner l'autre pour ce qu'il est. Le yang, c'est bien ainsi, et le ying, eh bien, il est bien tel qu'il est. Et de toute façon, nous sommes yin-yang. On parle de chaque énergie, chacune de son côté, comme si en fait on pouvait les séparer. Mais en fait, même le mot yin-yang ne se sépare pas dans la culture du Tao, ça n'existe pas. Parce que ce terme est issu du Tao, le symbole yin-yang est issu du Tao. En fait, yang n'existe pas tout seul dans cette langue, c'est en fait une totale aberration. Mais l'interprétation occidentale a fait ce qu'elle fait de mieux, elle divise, elle catégorie, c'est très bien aussi pour certaines choses, ça nous aide. Mais il faut voir de façon aussi plus globale, et en vérité, à l'origine, eh bien, yin-yang, c'est ensemble. On n'a pas yin d'un côté et yang de l'autre, et ils sont indivisibles parce qu'ils font partie d'un tout. Et il faut retrouver cela en soi, ne plus se catégoriser nous-mêmes non plus, se diviser, se dire qu'on est eh bien, une personne, et pas juste eh bien, se dire que je suis plutôt une personne yin, parce que par exemple, eh bien, on est totalement dans l'aberration en fait. C'est pas possible, on est les deux. Une personne tout à fait yin, ça ne peut pas exister, elle ne se nourrirait pas, ne respirerait pas et mourrait en fait. Tout comme une personne yang qui ne dormirait jamais et qui mourrait aussi. Bon, bien entendu, j'exagère totalement, vous aurez compris l'idée. On dit une personne qu'elle est yin parce qu'elle est à dominante yin, donc on n'est pas dans le 100% ou dans le 90-10, mais plutôt dans 40-60%, on est d'accord. Mais en fait, c'est plutôt pointer le fait que cette façon de parler nous éloigne tellement de la vérité qu'il faudrait quasiment la bannir totalement. Parce que nous sommes tous des yin-yang. Et peu importe notre sexe, nos comportements, on est yin-yang. La voie du milieu est celle qui rassemble justement les pièces du puzzle, pas qui les divise. Et c'est tout le symbole yin-yang. D'ailleurs, si ce symbole était en mouvement et qu'il s'agissait de gouttes de peinture, par exemple, nous obtiendrions finalement un mélange de gris. Du noir mélangé au blanc nous donne du gris, c'est évident. Mais le symbole yin-yang nous explique, nous donne l'étape juste avant ce mélange, juste avant la fusion, ce moment clé dans toute cette dynamique, parce qu'il est bien question de mouvement, hein, on peut le voir dans le symbole yin-yang, on a l'impression qu'il y a comme une danse, que ça tourne. Alors ce gris, c'est bien les qualités des pôles qui s'ajoutent, qui se fondent entre elles, qui s'unissent. Équilibrer devient alors atteindre une espèce de mélange régulé. Et on comprend immédiatement qu'il va falloir d'un coup eh bien, réduire et d'un autre coup augmenter. Et toujours mixer sans jamais exagérer, sans jamais arrêter le mouvement. Je ne sais pas du tout si je suis claire, mais c'est vraiment une idée d'effort constant. Donc, ajouter une partie yang, réduire une partie yin, et puis 3 secondes plus tard, inverser. Et en faisant cet effort, mais alors constamment, eh bien, la voie du milieu naît. La voie grise, on pourrait même dire. Et la voie grise, eh bien, est la promesse de joie car la joie s'obtient lorsque l'on voit au-delà des conflits. Lorsque nous mélangeons en conscience les éléments opposés, comme la lumière céleste et l'ombre du subconscient par exemple, ou alors la spiritualité et la sexualité, eh bien, on crée un lien, une relation respectueuse entre ces éléments opposés, entre ces polarités. Et c'est d'ailleurs tout le but du tantra aussi. On l'évoque comme une espèce de Kama Sutra en Occident, où on fait place à des orgasmes intenses, etc. Mais non, ce véritable cheminement, c'est un cheminement gris de la voie du milieu, de l'union des opposés. Alors, arrivé à ce stade, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais c'est facile, hein, quand tout va bien dans la vie, déjà c'est compliqué en soi d'y arriver, à cet équilibre, mais comment faire quand rien ne va, quand par exemple on vit une vraie bataille intérieure? Et bien là aussi, les conflits que l'on vit intérieurs ou même extérieurs sont en fait une disharmonie entre nos désirs et nos valeurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas équilibrés, qu'ils ne sont peut-être pas reliés, et en tout cas qu'ils ne se respectent pas. Donc, comment les lier en conscience? On peut le faire par un certain détachement qui va justement avec la loi du milieu, ou plutôt par la confiance et l'espoir. Et ce sont bien sûr des notions très galvaudées, c'est vrai, je l'avoue. Mais vous allez voir que notre méditation de ce mois sera sur l'espoir et l'apaisement des conflits, et vous allez voir que c'est très efficace, même en une seule pratique, même en une seule fois, pour calmer nos batailles intérieures et retrouver le chemin du milieu. Ensuite, on pourra se rendre compte que son conflit était peut-être nécessaire pour nous permettre de développer nos compétences, à rester et à retourner dans la voie du milieu, dans l'équilibre, dans le calme en mouvement, dans cette union grise de ce qui fait la totalité du soi. Comme toute voie, le chemin gris du milieu se prend seul. Il peut nous paraître sinueux, brouillageux, sans direction, trop plein ou trop vide. À nous alors de le remplir par des mouvements subtils ou de le vider 3 secondes plus tard si c'est nécessaire. D'ajuster constamment en fait pour qu'il reste le plus gris possible et pas gris foncé ou gris clair, mais vraiment gris neutre. Finalement, le chemin du milieu nous mène vers notre espace sacré intérieur, le temple du soi profond, comme on l'appelle, ou le présent éternel, selon les cultures et les religions. Car la voie du milieu est aussi un chemin temporel, qui n'est ni le passé ni le futur, qui sont les deux extrêmes du temps, mais bien le présent, le centre. Si la vie est un art, une création, et bien c'est alors de créer cet ajustage constant. Vivre dans le présent, dans l'espoir et la foi, dans la perception affinée et l'union consciente de paradoxes. C'est tout l'art du Tao, c'est tout l'art du Tantra. C'est tout un apprentissage pour toute une vie, mais c'est aussi celui qui nous rapproche peut-être le plus de la vérité universelle, très paradoxale. Et on pourrait dire que l'incarnation, la vie, c'est comme une immense balle de gym sur laquelle nous devons trouver notre équilibre. Pour récapituler très vite tout ce qui vient d'être dit, eh bien, l'harmonie est un mouvement constant, c'est très très important de se le rappeler tout au long de ce mois. C'est un réalignement subtil, ce sont des perceptions fines et c'est surtout le respect. Ce sont nos 3 clés, mouvement, subtilité, relation. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi cet audio jusqu'au bout et je suis impatiente de vous rejoindre pour la suite, pour la méditation notamment. Vous trouverez à la suite de cet audio un questionnaire pour vous permettre de savoir où vous en êtes sur la voie du milieu. Je vous invite à y répondre par écrit, c'est toujours très très important de prendre véritablement le temps de coucher vos réponses sur le papier. Je vous remercie encore une fois. Et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt.